Vous écoutez l'émission associativement vôtre sur RTVFM.
Bonjour aujourd'hui.
Bonjour.
Aujourd'hui, nous accueillons Jean-François Brun. Bonjour Jean-François.
Bonjour Anne, bonjour à tous les auditeurs.
Voilà, vous êtes le président du Conservatoire des
du patrimoine sportif.
Vous nous dites un peu en quoi ça consiste et pourquoi on dit patrimoine et pas musée en fait ?
Ben écoutez, oui, c'était d'abord quelque chose qui est un peu difficile à expliquer, donc je vais prendre quelques minutes pour vous l'expliquer. C'est une association que nous avons fondée il y a plus de 20 ans maintenant et qui a pour ambition de rassembler les souvenirs du monde sportif du canton vénitien depuis son apparition chez nous à la fin du 19e siècle jusque et y compris à nos jours, de les rassembler, de les conserver et de les montrer. Alors évidemment, c'est une structure qui est un peu à cheval entre un conservatoire, qui serait une maison où on garde des souvenirs, on tient des archives, et un musée où on montre ce qu'on a rassemblé. Voilà. Nous faisons les deux, en fait. Nous avons choisi ce nom que j'espère le public ne trouve pas trop pompeux de conservatoire, mais effectivement, on aurait pu aussi s'appeler musée du sport Contadem, par exemple.
D'accord. Sauf qu'on sait qu'il y a des personnes qui régulièrement versent des éléments dans le fonds documentaire en plus.
Exactement.
Des photos. C'est,
voilà. Je crois que même quand vous êtes venu nous voir, il s'est trouvé quelqu'un qui portait des documents. Mais c'est pratiquement... On est ouvert au public deux jours par semaine. Et c'est chaque fois on a des contacts. Chaque fois que nous organisons une exposition, nous sommes en contact avec les associations sportives qui pratiquent le jeu, par exemple, qu'on va montrer, et qui nous laisseront des souvenirs, qui nous mettent en contact avec des gens qui ont des archives. On fonctionne comme ça. Voilà, c'est par contact, le réseau de nos connaissances qui nous approvisionne en permanence en souvenirs du sport.
Donc on est dans l'histoire sportive du Comtat vénitien. Le sport, le jeu. Moi, quand je suis allée vous voir, j'ai fait une découverte quand même. Je ne savais même pas qu'il y avait des arènes ici. Je croyais que c'était réservé à la région camarguaise. Pas du tout.
Et oui, les arènes, la zone d'influence de la course camarguaise monte jusque chez nos amis du Terrain ou Pernin, de Pernin-les-Fontaines, qui est une association qui est encore bien vivante et qui organise plusieurs journées de course camarguaise dans l'année, en particulier l'été. Mais il y a eu autrefois à Carpentras, il y a eu à Mazan, je crois, des arènes avec des courses camarguaises. Ça a disparu de ces régions il n'y a pas très longtemps.
Et on a aussi les joutes qui, elles, par contre, existent encore.
Alors les joutes, à l'Île-sur-Sorgue, il y a un club de joutes. Là aussi, on est à la limite septentrionale de la zone d'influence. Sur le Rhône aussi, il y a eu... en particulier à Avignon, c'est on peut dire que c'est la plus ancienne association sportive vauclusienne, puisque c'est l'association des francs jouteurs avignonnais qui donc organisait des joutes sur le Rhône vers 1860.
En effet.
Voilà, et nous avons la copie de toutes les archives de cette association. C'est très intéressant pour l'historien.
Et on est au pied du Ventoux, évidemment, on ne peut pas ne pas parler du vélo.
Alors évidemment, aussi le vélo. Ça, c'est une tradition maintenant que nous avons depuis quelques années et qui est encouragée par la fréquentation de nos expositions. L'été, nous organisons pratiquement toujours une exposition qui rassemble le vélo et le Ventoux, parce que Carpentras, la région qui va jusqu'à Bédouin, Malocène, est peuplé à ce moment-là d'innombrables touristes qui viennent exprès pour s'affronter au Ventoux avec leur vélo et ils sont contents de voir les anciens champions qui sont venus grimper le Ventoux, des photos que nous avons de documents très anciens.
D'ailleurs, les expositions des papillons, cette année, ont réservé un chapitre au sport. Voilà. Il y a eu des photos qui ont été agrandies.
Voilà, nous avons collaboré très volontiers avec José Puchal, qui était un personnage extrêmement sympathique et plein d'idées, et qui nous a demandé de... Nous nous sommes contentés de fournir le fond documentaire et les photographies, mais c'est lui qui a ajouté sa patte artistique et puis la ville qui a exposé ça dans la rue Porte de Mazan où nous sommes.
Une belle curiosité quand même.
Oui, c'est une belle histoire.
Un autre sport aussi, moi j'ignorais, mais bon, je ne suis pas forcément très calée sur ces questions-là. Le motoball, je crois que c'est historiquement.
Le motoball est un des sports emblématiques de Carpentras avec le rugby à 13. Le motoball est une curiosité pour beaucoup de gens qui n'en ont jamais vu, qui n'en ont jamais entendu parler. Et c'est vrai d'ailleurs, malheureusement pour eux, qui sont des grands sportifs et des méritants, la couverture médiatique nationale n'existe pas pratiquement. C'est un sport qu'on ne voit jamais à la télévision. Alors que c'est un sport extrêmement spectaculaire. Il est apparu dans notre Vaucluse en 1934, à peu près, je crois. Et d'emblée, il a conquis une bonne partie de la Provence. Il y avait plusieurs clubs...
À Pernes-les-Fontaines, je crois qu'il y avait vraiment aussi... Non, pas spécialement.
Il y en a eu dans, tout autour de Carpentras, Avignon, Cavaillon, Camaret plus tard. Bolène, il y a eu des clubs et à l'heure actuelle aussi quand on dessine une carte, ce que nous avons fait d'ailleurs et que nous montrons quelquefois de la zone de motoball, vous avez le Vaucluse et dans le nord de la France, enfin le nord très large, oui. Ce qui est le nord pour un carpentrancien, quelques clubs dispersés de l'est à l'ouest et au nord de la ville, mais le Vaucluse reste le noyau dur pour des raisons que je ne peux pas vous expliquer parce que bon, le goût des Vauclusiens pour les sports mécaniques, qui datent probablement des premières courses du Ventoux de 1902 ou 3, et qui est resté ancré dans la population. Il y a des motocross, il y a des... Les Vauclusiens aiment beaucoup les sports mécaniques et le motoball.
Et il y a d'autres traces historiques de pratiques sportives qu'on peut ignorer
hein, oui, je pense que... Si vous, il y a quelquefois que ce sont des curiosités qui ont été... retrouvés par la recherche. Par exemple, il avait été publié à plusieurs reprises, je ne saurais pas dire, c'est un décret, je crois, du recteur du comtat vénitien au temps des papes. Ça date de ce dont je vous parle, de 1674. Enfin, je ne suis pas fort pour les dates. Disons au XVIIe siècle, l'évêque de Carpentras avait interdit qu'on joue au ballon sur la place du palais, enfin, l'actuelle place du palais, qui était la place du palais de l'évêque, avant d'être celle du palais du tribunal. Et j'ai un peu approfondi ça, je suis allé voir le texte en italien, et en fait, ce jeu s'appelait à l'époque Gioco, qu'on me pardonne la prononciation italienne, Gioco del Pallone. Et ce jeu, c'est un des ancêtres du jeu de paume. C'est un jeu qui se jouait face à face, où on se renvoyait une balle, une pelote, c'est le même mot en italien, avec probablement des gants, ou, parce que ce jeu se pratique encore en Italie, avec des brassards très lourds en bois, à pointe de diamant. Et donc nous avons la preuve que ce jeu, alors il est vrai que Carpentras à ce moment-là était pratiquement une colonie toscane. C'était gouverné par des Italiens et... tout le monde parlait italien et on jouait à des jeux italiens. Mais enfin, nous en avons la preuve. Et ça remonte au XVIIe siècle.
D'où la fameuse plaque « Jeu de ballon interdit ». On peut se demander ce qu'elle vient faire là, voilà. Mais c'est en lien direct avec ça. Très bien. Mais écoutez, on va faire une petite pause musicale avant de poursuivre cette visite du conservatoire.
Ben, très volontiers.
Freak out.
L'émission associativement vôtre sur RTVFM.
Nous retrouvons donc Jean-François Brun, qui est le président du Conservatoire du patrimoine sportif à Carpentras. Je rappelle que ce conservatoire, tout le monde ne sait pas forcément où il est implanté. Il est rue Vigne, c'est ça ?
Il est rue Vigne, au croisement de la rue Vigne et de la rue Porte de Mazan. Une boutique rouge dont les Carpentraciens connaissent, c'était autrefois...
Le siège des Estivales.
Et puis avant, celui de la Mercerie à Vaux, pour les vieux Carpentraciens.
Ah, d'accord.
Mais malheureusement, je le suis.
Parce qu'il peut bien arriver qu'on passe très souvent devant sans savoir ce que c'est.
Eh bien oui, alors j'espère que nos vitrines sont assez explicites, mais c'est vrai que quand on ne sait pas que c'est une sorte de petit musée du sport contadin, on peut avoir des doutes.
Alors vous êtes ouvert deux fois par semaine aussi,
voilà, c'est ça ? Alors cette association est tenue par des bénévoles et nous sommes présents que le mercredi après-midi et le vendredi matin. Ou le vendredi matin, alors par contre, il y a une très grosse fréquentation.
Parce que le marché attire déjà du monde.
Voilà, c'est le marché. Puis les gens sont à pied et le piéton s'arrête plus volontiers que l'automobiliste.
Tout à fait. Donc juste avant notre pause, on parlait un petit peu des sports qui étaient pratiqués dans le comte avenaissin. Donc il y avait l'incontournable vélo par rapport au Ventoux, bien sûr. Mais il y avait des choses un petit peu plus particulières. Donc il y avait les joutes, effectivement, d'où avec la présence des cours d'eau, ça peut s'expliquer. Par contre, il y a des pratiques sportives qui s'expliquent peut-être un peu moins.
Eh bien, par exemple, oui, effectivement, on a dit un mot du motoball. Le motoball n'est pas le seul sport, je dirais... relativement original qui se joue dans la région, puisque le rugby à 13, qui est apparu à peu près au même moment, un peu avant la guerre, je crois que c'est en 1936, que les clubs de rugby vauclusiens sont passés en masse au rugby à 13. Et pour des raisons qui ne sont pas forcément les mêmes que celles qui ont présidé à l'invention de ce sport en Angleterre. En Angleterre, c'est un sport qui est né sur une sorte de clash sociologique. Les unions du Nord étaient, on va dire, organisées, puis les joueurs étaient des ouvriers, des gens qui n'avaient pas énormément de moyens et qui jouaient au rugby, donc il n'y avait qu'un rugby à cette époque-là. Et ils avaient besoin d'un manque à gagner, parce que bon, pendant ce temps, ils ne travaillaient pas. Et les unions du Sud, en particulier de Londres, qui étaient fréquentées, elles, par des aristocrates, des étudiants, des universitaires, n'avaient pas tellement envie de jouer avec ces ouvriers du Nord. Et le clash est venu de là. Donc, il s'est créé dans le nord de l'Angleterre, en région de Leeds, de Manchester, une rugby qui était... volontairement orienté vers le jeu à la main, un rugby de passe, et qui a été donc le rugby à 13, qui a été fixé à peu près dans ses règles vers 1905. En France, il était à peu près inconnu avant le début des années 30, ou pour des raisons, alors là, interne au rugby à 15 français. Il y avait des, c'était devenu extrêmement violent. Et donc le rugby à 13 a pointé son nez à ce moment-là. Et il a rencontré tout de suite un très grand succès dans notre région, comme le motoball, pour des raisons évidemment fort différentes probablement, mais qui sont encore difficiles à expliquer. Il faudra que les historiens, si ça les intéresse, se penchent là-dessus.
Ils pensent davantage. Alors, pour en revenir au conservatoire, vous disposez d'un certain nombre d'objets, de photos, de documents audiovisuels. Qu'est-ce qu'on peut y trouver ?
Alors, effectivement, si vous voulez, nous sommes très éclectiques parce que quand, par exemple, les gens nous demandent « Mais est-ce que ça vous intéresse, ça ?» Ben, on répond toujours oui, parce que ce soit des anciens des instruments de fin, des raquettes de tennis, des instruments pour jouer, des skis, on prend tout. Tout nous intéresse, si vous voulez. Donc, on a rassemblé énormément de documents qui ne sont pas forcément faciles à catégoriser. On a beaucoup de photographies, effectivement. On doit être à peu près maintenant à... Je dois donner 4 ou 5 000 photographies. On a énormément aussi de documents papier, ce qui est pas très spectaculaire, mais qui est extrêmement rare. Les archives papier, les clubs n'en font pas. J'ai été joueur... J'ai été dirigeant. Quand vous êtes joueur ou quand vous êtes dirigeant, une seule chose vous intéresse, c'est la saison à venir. Et personne dans un club, même dans un comité fédéral, ne tient vraiment des archives sérieuses. Et ces documents disparaissent très vite. C'est d'ailleurs une des raisons qui m'a poussé à créer le conservatoire. C'est parce que j'avais sous les yeux, j'étais allé interviewer Edmond Olivier, qui avait été le président du club quand moi j'étais cadet, et qui m'a confié des documents, mais irremplaçables. C'était
quel genre de documents ? Qu'est-ce qu'on y trouve ?
Toute la correspondance avec la fédération. Mais c'était un homme, c'était un archiviste né. C'était un bon président, mais c'était un archiviste né. Il avait gardé les menus... les menus sportifs, les menus des repas, les tickets de train... Les factures d'hôtel, tout. D'accord. Donc, si vous voulez, pour un ethnologue, c'est une mine formidable. C'est une mine d'or. Donc, quand j'ai vu ça, il m'a demandé si ça m'intéressait. Je lui ai dit, oh, combien ? Le conservatoire n'existait pas encore. Mais disons que c'est peut-être la pierre sur laquelle nous l'avons bâti.
Et vous avez aussi des documents audiovisuels, des films, des...
Alors, nous avons beaucoup de films, plus ou moins bien montés. Nous les gardons souvent bruts parce que alors, ce sont des films qui ont été faits par des entraîneurs, alors il y a des films de match, il y a des films des documents que nous avons pris à droite et à gauche sur les courses automobiles au Ventoux, nous en avons beaucoup aussi, et nous avons pas beaucoup, ça aussi c'est une chose extrêmement fragile, des vieux maillots, des équipements qui disparaissent très vite. Et je me souviens, un des fondateurs, un des plus anciens membres du club, qui est le regretté, en fait nous le regrettons beaucoup, Gabriel Guintrandi, qui était une mémoire de Carpentras aussi. Un jour, j'avais découvert dans les statuts du premier Racing Club que alors que tout le monde à Carpentras croit qu'on a toujours joué en rouge et blanc à Carpentras, que c'est les couleurs du club. Mais le Racing Club, c'est les couleurs à la fondation du club, c'est vert et noir. Et à ce moment-là, il est devenu tout pâle. Il m'a dit, mais moi j'avais un maillot vert et noir qui avait appartenu à mon père, c'est-à-dire qui jouait dans les années 1900. Et je l'ai jeté.
Oh, c'est pas vrai.
Alors, comme il était parfaitement au courant de ce que ce genre de choses avait de précieux, on ne pouvait plus qu'en rire, hein, c'était fini. Hein.
Effectivement. Bah, écoutez, on va faire de nouveau une petite pause avant de revenir un peu sur ces petites choses-là qui sont précieuses et que renferme le conservatoire, donc des conservatoires sportifs donc de Carpentras.
D'accord pour les cris d'angoisse qui vous ont fait pleurer. Mais n'allez pas jeter la pierre si vous croyez que certains vous ont offensé, car ceux qui dénoncent vos guerres
écoutez l'émission Associativement Vôtre sur RTVFM.
Donc, nous retrouvons Jean-François Brun. Vous êtes donc le président du Conservatoire du patrimoine sportif de Carpentras. Je rappelle que c'est un conservatoire musée, entre guillemets, qui est rue Vigne, Carpentras. Il y a un numéro, non?
64.
Au 64.
C'est le croisement de la rue Vigne et de la rue Porte de Mazan.
Voilà, qui est ouvert donc deux fois par semaine, le mercredi après-midi et le vendredi matin.
Absolument.
Voilà. Donc, nous avions fait une petite rétrospective rapide, mais il faudra que les auditeurs viennent voir parce que c'est vraiment une mine d'or. Il y a des choses extraordinaires à voir. Hein,
en effet, pour être vu.
Émouvantes par leur ancienneté, que ce soit des photos, des supports visuels ou des objets.
Oui, effectivement, il y a des objets, on peut dire émouvants, parce que c'est, oui, c'est le mot. Je me souviens, nous avons par exemple, concernant le Racing Club, un Ausweis, qui me permet de circuler. Ouais. Tamponné par la commandant tour, et trois ou quatre mois plus tard, un permis de circuler à l'effigie des FFI, donc pour le même club. Et c'est un témoin de la libération qui est survenu entre-temps, mais ce sont des documents.
C'est inédit, ça.
Effectivement, émouvant. Ah ouais. Émouvant.
Du coup, vous organisez, donc au-delà des objets qui sont visibles, consultables, on peut même visionner à un moment donné un support si on le souhaite, vous avez des expositions aussi.
Voilà, nous organisons à peu près 4 expositions tous les mois. Donc je vous ai parlé un peu tout à l'heure de l'exposition de l'été qui était presque un passage obligé par le Ventoux. Et puis le reste de l'année, nous organisons au moins 3 expositions thématiques. Donc à l'heure actuelle, par exemple, et qui va donc occuper tout l'automne, une exposition consacrée aux jeux d'autrefois, où nous montrons beaucoup de documents d'iconographie, en particulier anciennes, des gravures du début du siècle ou de la fin du 19e siècle, des gravures authentiques, ou des copies quelquefois, des documents photographiques, des clubs carpentraciens qui ont existé dès cette époque. Voilà. Et la prochaine exposition que nous allons faire au printemps, donc là, c'est presque un scoop parce que les clubs ne sont pas encore prévenus de ça. On va consacrer l'exposition de l'hiver à l'exploration spéléologique dans le Vaucluse, qui est extrêmement riche en cavités, en avennes, en particulier sur le plateau d'Albion. Et puis aussi au club alpin français. Donc je sais qu'il est extrêmement actif à Carpentras.
C'est vrai que la spéléologie, c'est aussi une activité sportive de toute façon.
Absolument. Alors là, tout à fait, c'est une activité sportive. À un moment donné, je crois, mais bon, c'était très discuté dans leur sein. Il y avait même des compétitions de celui qui descendait le plus rapidement au fond de la veine. Enfin, bon, c'était discutable. Ce n'est pas dans l'esprit non plus de cette...
L'esprit, voilà. C'est quand même... de disposer quand même d'une certaine condition physique quand il s'agit de descendre dans les cavités les plus profondes. Là, tout le monde n'y va pas.
Ça, il faut. Puis il y a des plongeurs qui sont spécialisés, qui vont dans les siphons, enfin, ça, indiscutablement, c'est une activité physique exigeante.
Que vous allez faire en collaboration avec le club de spéléologie de Carpentras, j'imagine.
Voilà, et puis notamment mon ami Marc Jean, là, qui est le fils nous sommes tous les deux des fils de fondateurs de ce club spéléo. Mon père est à l'origine aussi de la création de ce club.
Ah, d'accord. Mais vous pratiquez, non?
Ah non, pas du tout. Non, moi, je suis sans être claustrophobe, je me sens pas très à l'aise dans les casernes. Dans les cavernes, pardon. Dans les casernes, c'est autre chose.
C'est enfermant dans les deux cas, hein, de toute façon.
C'est tout à fait autre chose. Il n'en est plus trop question pour moi.
Et après, dans vos projets, vous avez des choses qui sont un petit peu... Donc, vous avez des expositions, bien entendu. Il y a des choses que vous souhaitez mettre en avant faire connaître, parce que... Je pense que tout le monde ne le connaît pas, ce conservatoire.
On nous fait tout le temps la réflexion, effectivement, mais ce n'est pas faute de... nous essayons de nous faire connaître. Je crois quand même que dans le réseau, dans le petit monde du sport, en particulier chez les dirigeants, on est connu quand même, parce qu'on a participé, et c'est une de nos vocations, même c'est marqué dans nos statuts, lorsqu'un club veut fêter un anniversaire, nous sommes là à sa disposition pour lui fournir des documents dont il ignore peut-être même l'existence. Et on le fait très volontiers, je vous dis, et c'est notre but. Donc là aussi, si on nous entend...
C'est le but,
c'est le but de la mission.
Voilà.
Je dis que les clubs qui ont des anniversaires à fêter ou des... ou s'interrogent sur leur ancienneté, sur leur histoire passée.
On peut faire une petite rétrospective d'un sport ou d'un autre.
Absolument.
Et vous prêtez des documents.
Absolument, oui, tous les documents sont ouverts. Je dois dire aussi, dans l'autre sens, que nous nous sommes modernisés, nous avons maintenant de bons documents, de bons matériels de reprographie, et que quand on nous montre des photos, alors souvent on nous les offre, on nous les donne. Mmh. Mais bon, il y a beaucoup de gens pour qui ce sont des souvenirs de famille et qui n'ont pas envie de les perdre. Nous les scannons immédiatement et nous les rendons immédiatement. Donc nous le stockons. Nous, ce qui est important pour nous, c'est le document historique et le document scientifique, pas la possession d'un objet.
Tout à fait.
Voilà.
Et puis de le rendre accessible à un maximum de personnes pour le consulter.
Absolument. C'est de le publier. Il est évident que nous voulons le publier. Mais encore une fois, nous sommes un conservatoire. J'ai une petite anecdote là, une dame que je connais bien, qui nous avait confié, nous l'avons scanné, des souvenirs de son père qui était un motocycliste, un joueur de motoball et un coureur de moto. Nous avons scanné les documents, nous les avons en archive, et peut-être 3 mois après, elle est revenue nous voir parce que ces documents, elle les avait perdus. On a pu les lui rendre.
Et vous lui avez sauvé le...
voilà, on a sauvé ses souvenirs de famille.
Bien, alors, je crois que là, on est arrivé au bout de notre émission. On va vous remercier. Donc, je rappelle que vous êtes le président du Conservatoire du
Patrimoine sportif.
Patrimoine sportif. C'est pas le musée dont on parle le plus en Carpentras, mais il faut quand même...
Il faut
faire le déplacement. Moi-même, j'ai poussé la porte de ce lieu. C'est magique, il faut y aller.
Eh bien, très bien. D'autant que le patrimoine sportif est, à mon avis, un patrimoine culturel à part entière.
Qui fait partie intégrante de notre patrimoine au sens large. Tout à fait.
Voilà.
Jean-François Brun, on vous remercie.
C'est moi.
Au revoir.
Au revoir. We'll be right back.